degrés.
6h-9h, le talk.
Que l'on offre un coffret, de l'argent, un chèque ou un objet, forcément on se met en jeu et on dévoile une partie de soi.
Comment est-ce qu'on pourrait faire pour permettre à la population de comprendre que de courir ainsi dans les magasins, c'est aussi courir à l'échafaud ?
D'un point de vue de la matérialité des cadeaux, c'est un processus qui s'est accéléré à partir de la fin du 18e et puis du 19e siècle. Avant, on offrait surtout des consommables.
Comme si la dématérialisation, et je suis fier d'avoir prononcé ce mot à cette heure-là, n'était pas un drame en soi. Or, si, bien sûr, parce que c'est un mot très poli, dématérialisation, pour dire une chose très triste, c'est destruction.
Chaque Suisse vient de dépenser en moyenne 294 francs pour les cadeaux qui seront déposés ce soir sous le sapin de Noël. C'est 7% de plus que l'an dernier. Pas de cravate, ni de bijoux ou de CD parmi les cadeaux préférés des Suisses, mais surtout des bons d'achat, du cash et quelques livres. Peu d'objets. Donc, d'ailleurs, une tendance se fait jour, offrir un cadeau immatériel, un cadeau que l'on ne peut pas déballer. Les CD disparaissent, les voitures se partagent, les dossiers professionnels se numérisent. D'ailleurs, l'impalpable est désormais célébré. La fête des vignerons de Vevey vient d'accéder au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Ce sera peut-être bientôt le tour du carnaval de Bâle. Alors, à l'heure où notre tradition de Noël est attaquée par les terroristes, comme à Berlin cette semaine, on questionne tous azimuts cette question de l'immatérialité ce matin avec nos deux chroniqueurs, Jost von Redding et Stéphane Gabiou. Bienvenue.
Merci, bonjour Antoine.
Et notre invité qui est Claire Clivat. Bonjour Claire Clivat.
Bonjour.
Vous êtes docteur en théologie, vous menez des projets de recherche à la croisée des humanités digitales et du Nouveau Testament à l'Institut Suisse de Bioinformatique de Lausanne. Claire Clivat, l'invitation à cette émission ce matin a débouché sur un billet de blog que vous avez posté hier déjà. Vous écrivez que les fêtes de Noël, Hanouka et même la fête indienne de Diwali doivent être inscrites au patrimoine culturel immatériel mondial de l'UNESCO. Pourquoi ?
Je me posais la question de valoriser ces fêtes de la lumière en ces temps si obscurs. Hein. Le contraste est frappant. Et vous avez remarqué que cette année, exceptionnellement, on commence à célébrer la fête juive de Hanouka le 25 décembre. Donc on est en synchronie christianisme et judaïsme cette année. Et ce serait peut-être une manière de réclamer que la lumière soit vraiment importante pour nous tous face à ces instants d'ombre. Voilà, donc c'était un petit peu de gag. Maintenant, ce qui m'intéressait dans ce billet de blog dans le journal Le Temps, c'était de souligner que cette action des patrimoines culturels immatériels lancée par l'UNESCO jouait en fait complètement sur le fait qu'on a une nouvelle matérialisation, la matérialisation digitale, et que précisément ce qu'on ressentait comme immatériel le devient de plus en plus. Parce que ces traditions qui n'étaient pas dans des livres, hein, la notion de matérialité, elle était tellement pour nous liées au livre, tout d'un coup elles deviennent matérialisées via l'enregistrement des sons, des personnes, des traditions. Donc c'est un nouvel ordre de matérialité auquel on fait face. Et pour moi, c'est la dématérialisation, ce n'est pas du tout la destruction comme on l'entendait tout à l'heure.
Oui, c'était l'écrivain Frédéric Becbédé hein, dans une émission de radio qui se plaignait justement de la numérisation ambiante et puis de ce siècle galopant, de cette ère galopante. Mais Claire Clivat, si je vous suis bien, vous iriez jusqu'à dire qu'il faut numériser Noël, si on prend l'exemple de la fête qui nous intéresse bien sûr particulièrement aujourd'hui, voire numériser les marchés de Noël pour pouvoir les visiter en toute sécurité avec des lunettes immersives en 3D.
Non, alors ça ce serait le fantasme qui nous fait à tous très peur, hein, du genre pour se la jouer super sécure, on nous mettrait des lunettes sur les yeux virtuels et puis comme ça on prendrait plus de risques du tout, ça serait le comble de la suissitude. Hein. Donc ça c'était de l'humour de ma part. Ceci dit, il y a probablement d'autres échanges à d'autres niveaux qui sont rendus possibles par le numérique aujourd'hui, y compris autour de nos traditions.
Mais le numérique, c'est aussi cette idée que rien n'existe plus. Vous le disiez.
Mais pas du tout.
Justement, mais vous le disiez avant, ces fêtes immatérielles, ce patrimoine culturel mondial immatériel se matérialise de plus en plus, je vous suis bien. Et donc, ça va à l'encontre de cette idée qu'on a que plus rien n'existe nulle part.
Mais c'est notre notion de la matérialité en complet chamboulement. C'est assez amusant de voir que dans les lieux les plus sérieux, par exemple, quand au niveau des universités suisses, on réfléchit aux diplômes académiques qu'on va dématérialiser pour les rendre numériques, on utilise ce mot de dématérialisation. Mais rien n'est plus matériel que le numérique. C'est de l'hypermatérialisation, en fait. Des câbles, des enjeux économiques, des serveurs, où sont les données? C'est un nouvel ordre de matérialité. Et on est tous en train de prendre beaucoup de temps et d'énergie pour réaliser ce que c'est. Le plus concret, je crois, c'est tout ce qui passe pour nous sur les écrans d'iPhone avec nos mains et nos doigts. Et pour moi, ça a été un vrai choc. La première fois que je me suis retrouvée à payer, c'était probablement un ticket de train sur l'application de CFF, à payer avec mon empreinte digitale. Il se passe quelque chose dans notre rapport à cette matérialité-là qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas encore et qui est en train de nous refaçonner.
Jost von Redding, Noël rime évidemment avec cadeau depuis longtemps, justement à propos de dématérialisation. C'est intéressant de constater qu'aujourd'hui, ces cadeaux, c'est beaucoup des bons d'achat, voire même des dons pour des organisations de bienfaisance.
Oui, voire juste une somme d'argent glissée dans une enveloppe. Il faut dire que c'est un petit peu le degré zéro du cadeau, parce que le cadeau, a priori, c'est pas un avantage financier uniquement. La somme scripture, bien sûr, elle est source de plaisir, mais pas, y a pas que ça quand on offre quelque chose. Dans une somme d'argent, dans un billet de 100 francs, il manque un petit peu la touche personnelle. Et ça peut signifier que le donneur, celui qui donne le cadeau, n'a pas idée ou l'envie ou l'audace, la connaissance du receveur. Et dès lors, il se dédommage en quelque sorte par le biais d'une somme d'argent ou d'un bon cadeau. Maintenant, on a les enfants, les jeunes, souvent à partir de 12, 13, 14 ans, ils peuvent demander effectivement pour Noël une somme d'argent pour s'acheter un objet plus conséquent. Mais là encore, c'est finalement le receveur qui donne le sens à son cadeau, alors que ça devrait être plutôt le donneur qui, par le biais de son cadeau, signifie un message au receveur. Si vous offrez à votre belle-mère un cactus, eh bien c'est un tout autre message que si vous offrez les 20 francs que coûterait le cactus.
Oui. Bon, il y a aussi les cadeaux humanitaires. Par exemple, de l'entraide protestante suisse, on peut offrir une chèvre à sa cousine, par exemple. Elle ne l'aura pas dans son salon, non. C'est une famille de la République démocratique du Congo qui en profitera pour de vrai.
Et oui, c'est Noël, c'est la fête de l'amour et on se montre altruiste, mais il y a quand même un problème avec la chèvre de Lepère, c'est que le rapport personnel entre le donneur et le receveur, il est aboli au profit d'une espèce de globalisation, de mondialisation. On est dans quelque chose de l'ordre de la contrainte qui ressemble à une sorte de bien-pensance un peu sournoise du genre « finis ton assiette, pense à tous ces petits Africains qui meurent de faim ». Parce que fondamentalement, si j'ai envie de faire don de mon cadeau à plus pauvre que moi, grand bien me fasse. Mais enfin, c'est un acte de générosité de ma part. Mais qu'on le fasse à ma place, ça signifie indirectement finalement qu'on me croit pas capable de ce genre de geste altruiste. Et finalement, comme receveur, je suis qu'un faire-valoir à celui qui donne et en fait qui se la pète un petit peu en se disant « mais regardez comme moi je suis généreux avec le tiers-monde et ça se fait sur mon dos ».
Claire Cliva, c'est l'idéal de vous avoir ce matin parce qu'on vous a entendu sous votre casquette de chercheuse en humanité digitale à l'Institut Suisse de bioinformatique. J'aimerais maintenant entendre un peu plus la pasteur sur ce que vient de dire Jost von Redding, la théologienne.
Je trouve assez excellent, comme vous évoquez, l'ambiguïté des cadeaux et tout ce qui se joue là-dedans. Et si vous voulez la théologienne, la première chose que ça m'évoque, c'est les cadeaux de Jésus, parce qu'il en reçoit aussi, les rois mages arrivent avec leurs petites cassettes, mais ils sont ambigus aussi. Alors l'or et l'encens, tout va bien, là ça marque la royauté pour l'or, la divinité pour l'encens, mais la myrrhe, ça se casse un peu la gueule, c'est comme les sept feuilles autour du berceau de la Belle au bois dormant, parce que la myrrhe c'est la mort, c'est ce qu'on met pour embaumer les corps, et en fait l'enfant Jésus reçoit littéralement le cadeau de la mort et de la finitude au moment de sa naissance. On rejoint cet ouvrage sur les épitaphes romaines que vous évoquiez tout à l'heure.
Ouais.
Donc quelle meilleure illustration pour rejoindre le cactus de la belle-mère ou la chef de la belle-sœur. Quelle meilleure illustration pour dire oui, dans le cadeau, il y a profondément une ambiguïté et beaucoup de choses qui se jouent là-dedans. Et quand nous recevons un cadeau, on ne sait jamais jusqu'où ça va aller.
Stéphane Gabiou, au rayon cadeau responsable, il y a cette tendance émergente cette année. On verra bien si ça prend sur le long terme. C'est celle des cadeaux de seconde main.
Oui, alors si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux, vous avez le temps aujourd'hui d'aller effectivement repérer du seconde main. C'est effectivement la tendance 2016 apparemment. Il y a un double but, un double avantage finalement au seconde main. Tout d'abord, pouvoir trouver des cadeaux de qualité à moindre prix, ça c'est intéressant. Et puis, penser à l'environnement, on y reviendra. Le symbole de cette nouvelle tendance, c'est un site internet qui a été créé au début du mois, qui s'appelle cadeauxsecondemain.ch. Le but de ce site, c'est vraiment de mettre en avant les lieux, et on se rend compte qu'il y en a des dizaines à travers la Suisse romande, des lieux qui proposent, voilà, justement du seconde main, avec toutes sortes de cadeaux, alors idées de cadeaux que vous pourrez y trouver, de la vaisselle, des jeux, des appareils électroniques, des livres, des objets de décoration, des montres, des berceuses, des... Je sais que vous avez prévu d'offrir une tronçonneuse à votre femme ce soir. J'espère qu'elle sera seconde main, mon cher Antoine.
Pour mettre un peu d'ambiance à la maison.
À côté du cactus de la bonne mère.
Ouais, exactement, ça va être bien Noël cette année. Ouais. Bon, je peux comprendre la démarche du seconde main, Stéphane Gabu, mais parce qu'on a peut-être tout simplement pas les moyens d'offrir du neuf aux gens qu'on aime, mais pourquoi vous dites que c'est écologique?
Alors le site internet voilà que je vous citais met vraiment clairement quelques arguments en avant. Fabriquer un objet neuf, c'est évidemment utiliser des produits chimiques, donc des produits toxiques qu'on va rejeter potentiellement dans l'air, dans l'eau, dans nos sols. Acheter du neuf, c'est acheter un objet qui aura pollué par son énergie grise. Donc là, l'idée avec le seconde main, c'est de recycler. Donc ça veut dire qu'on va récupérer, on va limiter la surproduction avec quelques arguments forts. Hein, zéro rejet CO2, zéro rejet toxique dans l'air, zéro déforestation, zéro gaspillage. Je cite toujours ce qui est indiqué sur le site internet. Du seconde main pour Noël, c'est que du positif. Nous sommes tous gagnants. C'est le plaisir d'offrir sans arrière-pensée. Et c'est permettre demain. Et demain, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose.
Le film.
Voilà, exactement. Le documentaire sorti cette année avec plein d'initiatives très positives pour, ménager un peu l'environnement à travers le monde.
Bon, franchement, offrir une tronçonneuse pour Noël, pourquoi pas? Mais en même temps, offrir une tronçonneuse d'occasion. Non, mais ceci dit, offrir un cadeau de seconde main, un cadeau d'occasion qui a servi, je sais pas, une bande dessinée aux pages écornées, un disque rayé, je sais pas, ça peut quand même être mal perçu.
Alors,
par la personne qui le reçoit.
Je sais que vous avez prévu également, par rapport à votre belle-mère, de lui offrir des robes déjà portées, hein, notamment par une ancienne conseillère fédérale, je dis ça au hasard.
Non, elle les garde.
Ouais, elle les garde, elle les porte. Allez, voilà, bon. Et votre belle-mère, ce soir, il va falloir que vous lui expliquiez votre démarche. Si vous lui racontez toute cette démarche, c'est-à-dire dans le fond, j'ai envie de protéger l'environnement en t'offrant ce cadeau, et j'ai pensé à toi parce que, je peux imaginer qu'elle prendra les choses de manière tout à fait positive.
Vous écoutez la première, il est 8h44, Claire Cliva, fascinant ce sujet, parce qu'on parle de la dématérialisation, on parle des cadeaux, c'est lié, hein, même si il n'y a pas forcément d'évidence, hein, quant à la proximité de ces deux thèmes, mais c'est intéressant aussi tous ces débats qu'on a autour de Noël. Cette année, je pense que vous l'avez vu, par exemple dans le quotidien Le Temps, il y a eu chaque jour le portrait de quelqu'un qui voulait un autre Noël, alors le fêter sous les tropiques ou manger vegan au menu de Noël, enfin ce genre de choses. Est-ce que Noël peut être disrupté par la numérisation de notre société, comme les taxis ont été disruptés par Uber, l'application Uber?
Je crois que les réseaux sociaux transforment le tout, hein, de nos traditions. Donc, qu'est-ce que Noël va devenir là-dedans? Il faut voir. Maintenant, ça laisse d'autres possibilités aux fameuses réunions familiales. Alors, je suis impressionnée de voir le nombre de mentions de la belle-mère qui sont venues jusqu'à nous à présent. Donc peut-être que ça permettra de remettre un peu d'air positif et d'espace dans les relations familiales. On peut imaginer, d'ailleurs, mon fils cadet est au Canada, donc j'imagine que je ferai un bout de Skype avec lui à l'occasion de ce Noël. On peut imaginer que dans ces réunions de famille qui étaient toujours très codifiées, forcées, obligées, pas toujours réussies, il faut le reconnaître, ça puisse remettre un peu d'espace et d'air, et qu'un moment de Noël que vous viviez online avec une partie de votre famille puisse être tout à fait réussi, pourquoi pas.
Il y a aussi une idée clairement émergente, c'est les cadeaux immatériels.
Absolument, Antoine, et d'ailleurs, je viens de vous en faire un.
D'accord.
Vous avez reçu?
Oui, c'est bon. Qu'est-ce que c'est?
Eh bien, c'est un SMS, mais pas n'importe quel gentil, SMS. Mais... Antoine, c'est un SMS écrit avec beaucoup d'amour.
Voilà. On va vous laisser.
Blague à part, c'est vrai que c'est ce genre de cadeau maintenant qui est un peu tendance, un beau texte envoyé par SMS. Et ces cadeaux immatériels, eh bien, ont le mérite, selon leurs adeptes, eh bien, d'être peu coûteux, peu polluants aussi, comme les cadeaux de seconde main, de restreindre le consumérisme, et puis de favoriser les liens humains. Donc c'est un peu un truc de bobo, quoi. Mais enfin, il faut quand même dire que ces cadeaux immatériels ont un avantage certain, c'est qu'ils sont très vite faits. Il suffit de prendre un bout de papier, un stylo, hein, c'est un bon, on fait une promesse à quelqu'un de faire quelque chose, et puis hop, le cadeau est fait. Et comme aujourd'hui, c'est le jour J, que je suis sûr qu'il y a plein de monde qui nous écoute, qui n'a pas encore fait toutes ses courses de Noël, je vous propose une petite liste d'idées de cadeaux immatériels que vous pourriez faire. Alors par exemple, dans les cadeaux de bien-être à deux, par exemple, vous pouvez proposer une soirée poésie où on discute poésie, on essaie d'analyser les poèmes, on en récite autour d'un bon verre de vin, ou bien d'une tisane, commerce équitable bien entendu, ou bien alors une promenade comme si on était touriste dans sa propre ville, avec aussi là peut-être une dégustation terroir, ou alors plus classique, 2 heures de massage. Et puis dans le registre cadeau service ou cadeau utile, moi je me propose de réparer ton vélo, Antoine, ou alors t'as un bon pour que je sois là à ton prochain déménagement, 2 heures de repassage, pourquoi pas, ou bien soigner ton chien, ton chat, ton iguane pendant que tu seras en vacances, bon pour 1 heure de lecture à une personne malvoyante si on veut faire un peu dans le social, ou alors un bon pour des conseils privés en jardinage, relooking, bon, et que sais-je. Et puis des cadeaux, on va dire, dernière idée, un peu des cadeaux bonus, alors ça coûte rien, échanger les rôles dans un couple pendant une journée, ou bien un bon qui dit « Dès que tu présentes ce bon, j'arrête de râler contre toi. » Ou encore, et dans le même style, un bon pour un pardon. Alors ça peut être utile parfois, mais enfin voilà. Bon, ah, si vous n'avez pas tout noté, hein, on peut écouter le podcast.
On peut écouter le podcast dès la fin de cette séquence. Claire Kiva, vous faites des cadeaux dématérialisés, ou vous êtes intéressé par ce système de bons où on remplit une soirée poésie autour d'un bon verre de vin ou d'une tisane commerce équitable?
J'étais très intéressée par votre liste, parce qu'au fond, elle remet le relationnel au centre, hein, ce que les gens s'échangent et se donnent profondément. Donc moi, ça me va bien, votre liste. Je la trouve très bien. Mais j'appellerai pas ça des cadeaux dématérialisés. C'est des cadeaux qui, on a l'impression, qui ne coûtent rien en termes d'argent, mais qui ont leur matérialité. Et notamment, une chose que j'ai offerte il y a pas longtemps, fait connaître à ma fille il y a pas longtemps, pour moi, qui était un vrai cadeau, c'est une bande dessinée tout à fait nouveau genre, Falena, que vous trouvez absolument gratuitement online, sur toute application, vous pouvez y accéder sans souci en français et en anglais. Et ça s'appelle en fait une bande défilée, parce que ça joue sur la bande dessinée, la musique, le son, et ça vous fait vivre des moments absolument extraordinaires. On en était baba. Et ça, pour moi, c'est un vrai cadeau. Il n'est pas dématérialisé, au contraire, il est complètement pris dans cette matérialité digitale, mais il ne nous a pas coûté un centime.
Il y a un peu cette tendance quand même du retour à l'humain. Est-ce qu'on est trop débordé par ce trépidant 21e siècle qui s'accélère maintenant de façon assez affolante? Parce qu'il y a encore quelques années, recevoir un bon « je t'offre de découvrir notre ville ensemble comme deux touristes pendant une journée », ça paraissait quand même, ouais, il s'est pas foulé le gars, non?
Oui, peut-être, mais c'est sûr qu'on va avoir de nouveau énormément besoin de lenteur, et ça je trouve très chouette. On explore ce nouveau rythme digital, on est tous constamment tenus par les emails, les communications, etc. Puis tout d'un coup, on est en train d'en faire l'expérience chaque jour davantage, je crois, on stoppe. Parce que on voit bien qu'on ne peut pas tout le temps fonctionner avec le ding du SMS qui arrive comme ça. Donc tout le temps, on stoppe, puis on fait des choses très lentes, puis on va redécouvrir sa ville, pourquoi pas, des choses très simples et tout. Je trouve ça très intéressant, c'est un nouveau mode de vie, plus simple peut-être, plus dépouillé, où on doit volontairement faire des ruptures pour avoir des moments d'ordre différents.
Comme si le balancier était allé trop loin et puis qu'il fallait revenir à une espèce d'équilibre, retrouver un équilibre.
On est en train d'explorer, je veux dire, il faut être absolument indulgent avec nous-mêmes, particulièrement.
Désolé, on explore, mais en même temps, la numérisation, elle est inéluctable.
Oui, mais à vous d'y être actif et de l'explorer, parce que si vous la laissez, vous arrivez sur la tronche sans rien en faire, vous n'allez pas aller bien loin. Donc il faut être acteur là-dedans, la prendre en main et puis l'explorer. C'est une attitude active.
Stéphane Gabiou, un mot sur les plus jeunes d'entre nous, cette génération qui dort sans doute encore à 8h50.
Ah oui, où ils rentrent.
Bon, ils sont encore en forme alors, parce que, bon bref. C'est plus jeune, cette génération qui ne serait plus autant attachée aux objets que clairement.
Oui, que peut-être notre génération, ouais, c'est vrai. Si j'en crois un article paru dans le Temps il y a 6 mois, c'est vrai que on fait le constat que beaucoup n'ont pas de voiture et n'en veulent pas. Beaucoup sont parfaitement heureux dans cette dématérialisation. Tout se passe dans ce fameux cloud, ce nuage. Donc on y a sa musique, ses films, tous ses échanges avec ses copains. Le Temps a rencontré par exemple Sarah qui a 20 ans, elle habite à Lausanne. Vous allez chez Sarah, vous rentrez dans sa chambre, qu'est-ce que vous voyez ? Un lit, un téléphone portable et un ordinateur portable. C'est tout, il n'y a rien d'autre.
Quelques habits quand même, 2-3 habits.
Oui, alors oui, bon, de seconde main, j'espère, enfin j'imagine, pour Sarah. Alors au-delà évidemment de ce cas précis, il y a une tendance de fond. On serait en train de passer vraiment d'une société matérialiste où la propriété était vraiment un maître mot, à une société de partage. Je ne possède plus et quand je possède, je partage, voilà, ma voiture, mon canapé, ma chambre d'amis.
Ouais, bon, je partage, mais en même temps, c'est pas gratuit.
Alors c'est pas gratuit, faut pas rêver, hein. L'argent, on s'en est pas complètement débarrassé, même dans la dématérialisation, donc on garde de l'argent, donc on est vraiment dans l'idée d'une économie de partage. On citait tout à l'heure Uber, on peut citer Airbnb, etc. Donc les sociétés de l'économie du partage. Et puis on est aussi dans une société de plus en plus mobile, et notamment voilà, c'est cette jeunesse dont on sait qu'elle va devoir changer de boulot très souvent, donc aussi déménager. À quoi ça sert de m'embarquer avec des tonnes et des tonnes d'objets chez moi? Non, je me dématérialise et c'est plus simple, je suis plus mobile et plus souple.
Du coup, Sarah, 20 ans, que vous citiez, qu'est-ce qu'on lui offre pour son Noël?
Mais vous êtes gentil, vous avez envie de faire un petit cadeau.
Non, mais je sais pas, puisqu'on s'intéresse plus aux objets, en même temps, un bon pour acheter des chansons.
Alors, ça, apparemment, Sarah, ce qu'il lui faut, c'est un bon dans une compagnie d'aviation low cost, comme ça, vous l'emmenez vite fait à Londres, à Barcelone, et elle est heureuse avec ça, apparemment.
Ouais. Mais là, le côté non-polluant, c'est raté.
Oui, elle fait du seconde main d'un autre côté, elle ne peut pas être parfait partout. Hein.
Claire Cliva, clairement, ça, notre rapport aux objets, c'est ce qui nous conduit depuis une vingtaine de minutes, qu'on parle de ce sujet-là, notre rapport aux objets, ou bien leur rapport aux objets, leur rapport des objets de cette jeune génération, il va changer, clairement, même si vous n'êtes pas Madame Irma, je sais.
Ça me paraît totalement évident à lire cet article du Temps. Ce que ça m'inspirait en vous écoutant, c'est aussi le rapport des chercheurs en sciences humaines à l'objet livre. Là, c'est le cataclysme complet. On avait toujours des gens qui écrivaient au nom d'une seule personne, leur nom, un livre. Et maintenant, on est en train de plus en plus d'écrire des textes à plusieurs. Alors l'attachement même à nos idées, aux pages qui étaient les nôtres, on est en train de le lâcher peu à peu. Alors il y en a que ça panique. Et puis il y en a d'autres qui adorent ça. On est en train de découvrir ce partage des pages du livre. Et c'est aussi un sacré cataclysme. Et très certainement que la génération des jeunes chercheurs, qui n'aura plus qu'un laptop, un lit et puis un iPhone, sera beaucoup plus prête à signer des articles avec des noms.
Mais cette jeune génération, elle a aussi une certaine capacité à l'oubli. Il semble que tout lui glisse un peu dessus, comme une goutte d'eau sur une plume de canard.
Et c'est là que ça va être intéressant de voir comment on stimule notre mémoire. Et on peut ici citer le moteur de recherche Zombie, avec lequel le Temps a gagné un fonds de soutien de Google, hein, de ces fameux DNI. Et ce moteur de recherche nous fait remonter des articles du Temps au bon moment, de la bonne manière. On va peut-être devoir compter sur les algorithmes pour ne pas perdre toute notre mémoire.
Un mot aussi sur cet immatériel qu'on citait en début d'émission. Cet immatériel, la fête des vignerons de Vevey, peut-être bientôt le carnaval de Bâle, excellent sujet encore hier soir dans Passe-moi les jumelles, la tradition du Silvesterklausen en Appenzell, ces paysans appenzellois qui se déguisent, qui passent des heures et des heures à se déguiser pour chasser les mauvais esprits. Là aussi, de plus en plus, l'UNESCO va inscrire ça pour ne pas l'oublier. Pour en faire quoi au final?
Peut-être pour garder justement des exemples de traditions où on donne du temps à. Je pense que ces traditions, on les ressentait comme populaires, anciennes, pas très valorisées, parce qu'elles prennent du temps. Et comme on le disait avant, maintenant, on a de nouveau besoin d'avoir des expériences où ça prend du temps. Et quand vous participez à une fête des vignerons, plusieurs pourraient l'attester, ça prend du temps.
Oh oui.
Oh oui. Donc, c'est peut-être ça qui nous stimule aussi à aller à la découverte de ces traditions-là.
Vous allez prendre du temps ce soir pour le réveillon?
Alors, bien sûr, mon réveillon, il sera avec une centaine de personnes à Morges, seul à Noël. On remercie Michel Villard et toute son équipe pour cette extraordinaire initiative qui existe depuis 9 ans. Pas seul à Noël, c'est top.
Et clairement, on est là dans de l'immatériel. On donne des choses, on partage des choses et on prend le temps de vivre les choses.
Mais heureusement, la fondue chinoise sera tout à fait matérielle.
Oui, je crois que ça, c'est le hit. Hein. Il y a l'Hebdo récemment qui a fait 4 pages complètes sur la fondue chinoise, qui sera sur beaucoup de tables ce soir. Merci beaucoup, Claire Clivin, docteur en théologie. Vous menez des projets de recherche à la croisée des humanités digitales et du Nouveau Testament à l'Institut suisse de bioinformatique de Lausanne. Bon week-end et donc joyeuse fête de fin d'année à vous.
Merci.
Et puis nos chroniqueurs étaient ce matin Stéphane Gabiou. On vous retrouve pendant les fêtes aux commandes de CQFD.
On va parler champagne notamment dès lundi.
Super. Bah oui, après le partage, vive le champagne. Et puis il y avait aussi Joost von Redding de la rubrique internationale de l'Actu TV. Bon week-end aussi.
Merci,
et à bientôt.
Joyeux Noël.
Merci, bonne fête.